Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Abdelmalik. Vers 19h45, le son du jour, ce sera This Morning de Julia Holter. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à la Piscine, le musée d'art de Roubaix, pour nous faire découvrir l'exposition Les enfants impressionnistes du musée d'Orsay dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Lucas Finet à la prise de son. Bonsoir Abdelmalik.
Bonsoir.
Vous allez présenter Notre Sacre avec la chorégraphe Blancali, le musicien David Grimal, le 12 et 13 avril, vendredi, samedi donc, à la Philharmonie de Paris. Sur la musique, d'une part d'Igor Stravinsky, le Sacre du Printemps, mais on entendra aussi la musique de Bilal, avec le collectif de musiciens Les Dissonances qui seront là, bien sûr, les créations visuelles de Carco. On va évoquer cette actualité, mais on va profiter de votre venue ici quand même ce soir pour évoquer vos nombreuses activités artistiques qui semblent se déployer toujours davantage. Auteur, compositeur, interprète, écrivain, metteur en scène, réalisateur. Vous venez de terminer d'ailleurs le tournage de votre deuxième long métrage pour le cinéma, L'affaire de l'esclave Fursi. Autant dire que la quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble ne va permettre que de survoler votre parcours. Mais rappelez tout de même que vous êtes né en 75 à Paris, avant de vivre entre 77 et 80 à Brazzaville, où votre père, journaliste, était occupé d'importantes fonctions à la radio, à la télévision. Puis c'est le retour en France, à Strasbourg. Vos parents divorcent, votre mère, qui est aide-soignante, garde avec elle les 6 enfants. Elle travaille beaucoup et vous êtes souvent forcément livré à vous-même. À l'école primaire, il y a une enseignante, mademoiselle Schaeffer, qui conseille à votre mère de ne pas vous envoyer au collège de la Cité du Neuf, mais au collège privé Notre-Dame des Mineurs, avec en plus une bourse, mais parce qu'elle a repéré l'élève talentueux que vous étiez. Alors vous ferez de fait le collège et le lycée là-bas avant d'intégrer l'université Marc Bloch pour un double cursus philosophie et lettres classiques. Mais dans ces années-là, tout n'est pas rose, loin s'en faut. Autour de vous, vous l'avez raconté déjà, beaucoup d'amis proches vont mourir. Alors vous avez une nouvelle bande d'amis, c'est Sénèque, Césaire, Baudelaire, Glissant, Camus. Camus, vous en avez également parlé déjà, le choc initial, c'est la préface de L'envers et l'endroit. Vous avez une douzaine d'années quand vous lisez cela, et comme vous aimez tout savoir sur les auteurs qui vous touchent, vous découvrez beaucoup de points avec Albert Camus, un homme qui venait d'une cité, qui avait été élevé par une mère seule, qui avait rencontré des enseignants qui croyaient en lui. Est-ce qu'il y a comme une identification à Camus à ce moment-là pour le jeune homme que vous êtes ?
Ouais, totalement, en tout cas une aspiration. Aspiration, inspiration, les deux. Je pense que pour moi, les figures littéraires, les écrivains, tout ce qui était dans ce monde-là, on va dire, c'est quelque chose qui m'a tiré, il y avait quelque chose. Et le fait de voir que dans le parcours d'Albert Camus, il y avait des ressemblances comme ça, et ben c'est quelque chose qui m'a, d'une certaine manière, qui m'a marqué, m'a fait aller vers lui, et m'a fait aller encore non seulement vers lui en tant que personne d'une certaine manière, mais de dire comment lui, en tant que une sorte de grand frère, avait géré cette situation là et donc forcément il y a eu des choses qui sont... Il y a eu peut-être une sorte de mimétisme, mais après il y a des choses un peu étonnantes qui sont mises en place et qui ont souligné la ressemblance quelque part.
Peut-être que Camus à une autre époque aurait fait de la musique comme vous quand vous avez 13 ans, vous fondez avec votre frère aîné Bilal et votre cousin Issa le groupe de rap New African Poets, NAP, pour les intimes, bien sûr, et il se passera du temps, 16 ans avant la sortie du premier album solo en 2004, le face-à-face des chœurs, et puis le début du vraiment grand succès avec le deuxième, Gibraltar, en 2006. Mais il y a d'abord la musique, donc, à tel point que vous envisagez d'arrêter vos études en première, mais là encore, un professeur, celui de latin et de français, Monsieur Miri, ouais, vous dit non, il faut aller en terminale, il faut faire de la philo. Alors, à propos de philosophie, on va quand même écoutez hein, cet archive d'Albert Camus au micro de Jean Maugin. Nous sommes en 1955.
Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
Alors, est-ce que c'est ce désarroi dont parle Camus qui vous fait ressentir, Dalmanique, dans ses années d'adolescence, un besoin de spiritualité ?
Je pense. Oui, je pense, parce que d'une certaine manière, qu'importe ce qu'on faisait, il y avait quand même quelque chose, on cherchait quelque chose qui nous dépassait, quelque chose qui était plus grand que nous. Et c'est vrai que par la musique, enfin, tout ce qu'on, même les amitiés, la manière dont on pouvait vivre nos différentes amitiés, etc. Extérieurement, c'était des amitiés adolescentes, enfin, la musique, quelque chose. Mais en réalité, au fond, in fine, il y avait ça. Il y avait quelque chose de, on a trouvé quelque chose de transcendant, quelque chose qui était plus grand que nous et qui nous donnait matière à espérer d'une certaine manière.
Parce que, qui brise la solitude.
Qui brise la solitude et qui brise un quotidien difficile quand même, compliqué en tout cas. Et voilà, donc oui, la spiritualité, ça je pense que oui, c'était tout ça fait sens par rapport à ça. Ce besoin de spiritualité vient de là au départ.
Alors c'est finalement vers le soufisme que vous allez vous orienter, vous, Abd al-Malik. La religion, elle occupe quelle place dans votre vie, dans votre parcours ?
Ben, disons que c'est quelque chose d'assez central dans ma vie, mais comment dire, la religion, puisque vous avez commencé en parlant de spiritualité, et puis vous me demandez la religion. La religion, c'est un vêtement. J'ai envie de dire, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'une certaine manière, la religion est un exotérisme, et la spiritualité véritable, ce qu'on vit, est un exotérisme. Mais c'est consubstantiel, ça fonctionne ensemble. Donc, ce qui occupe une place centrale dans ma vie, c'est pas tant la religion elle-même, dans sa forme, que la spiritualité, je dirais. Donc c'est central. Et encore une fois, la spiritualité, c'est il y a d'autres il y a cette forme religieuse, mais on peut être éminemment spirituel sans être religieux. Et ça c'est possible. En tout cas, il peut se passer quelque chose de puissant sans nécessairement qu'il y ait la forme religieuse. Il se trouve que moi, il y a un équilibre entre les deux.
Alors, j'évoquais Camus, j'y reviens quand même, parce que c'est un compagnonnage qui dure toujours, Abd al-Malik. Vous avez publié en 2016 un livre qui mélangeait texte, photographie, poésie, Camus, l'art de la révolte. En 2017, à la salle Pleyel, il y avait eu ce spectacle, enfin, cette forme de spectacle, Abd al-Malik rencontre Albert Camus. En 2019, vous avez adapté Mes Enseignes les Justes, ça c'était au Théâtre du Châtelet. C'est un compagnon de vie, toujours.
Ouais, c'est un compagnon de vie, réellement. Régulièrement, je me dis, est-ce que je suis en phase dans cette dynamique d'être artiste? Eh ben, je relis Camus, je me dis, ah, très bien, tout va bien.
C'est une boussole.
Oh, c'est une vraie boussole. C'est une boussole parce que je pense que ce qui est important pour moi, c'est le sens. Et à partir du moment où ce qu'on fait n'a pas de sens ou n'a plus de sens, eh ben, ça a plus de raison d'être en réalité. Et aussi, peut-être, se dire, en toute humilité, bien sûr, mais se dire, est-ce que je suis utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que le fait de produire, enfin, qu'il y ait une production artistique, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à des gens? est-ce que je suis utile à minimum? Voilà, toutes ces questions-là, ça vient régulièrement, et c'est vrai que Camus, c'est quelqu'un, voilà, c'est une vraie boussole, le terme est juste.
Alors sur l'utilité, je reviens à la musique de vos débuts, au rap de Nap, qui est une vraie catharsis, mais aussi à vos débuts en solo, un premier album, qui sera reçu discrètement, on va dire, mais le deuxième, Gibraltar, lui, il va exploser, double disque d'or, prix Constantin, prix de l'Académie Charles Cros, victoire de la musique, prix Raoul Breton. Mais pour ce disque, il y a une rencontre importante, là encore, majeure, celle avec Gérard Jouannet. Et avant de l'écouter, on va écouter cette archive de celle qui fut sa femme les 30 dernières années de sa vie, Juliette Gréco, au micro d'Hélène Azéra, c'était sur France Culture en 2001.
La Révolution a toujours demandé à la rue de la chanter. Et la rue a toujours chanté la Révolution. Il n'y a pas de révolution sans chanson. Il n'y a pas de progrès sans chanson. Il n'y a pas de fenêtre ouverte dans les petites maisons où vivent les gens d'une manière un peu chiche. La misère a toujours été chantée. L'amour a toujours été chanté. Toutes les sortes d'amour. La vie populaire, la vie normale, la vie de chaque jour a toujours été chantée. Donc c'est une chose très, très importante. Enfin, pour moi, c'est la voix du peuple.
Alors peut-être déjà un commentaire tout d'abord, Abdelmalik, sur ces mots de Juliette Gréco, à qui vous avez consacré un très beau texte, hein, savourement intitulé Juliette, qui est apparu il y a quelques mois à peine. La révolution a toujours été chantée.
Elle est bien, Juliette.
Elle est bien.
Elle est tellement juste dans ce qu'elle dit. Oui, je suis d'accord. La musique, la chanson, enfin, c'est la BO de l'existence. Il se passe quelque chose. On vit des choses et puis on les raconte. Et puis, les choses qu'on vit, elles sont accompagnées par des paroles, par une musique, par des instruments. Et elle a totalement raison. Et chaque époque, chaque révolution, je dirais, a sa musique, véritablement. Et pour ne pas dire que ça fonctionne ensemble, c'est un prolongement l'un de l'autre, véritablement.
Et ça, vous en aviez conscience dès les débuts de musicaux ?
Je me suis rendu compte, j'ai grandi dans un monde qui était violent, de violence, où on devait exister par la force physique, d'une certaine manière. Et quand j'ai commencé à écrire, quand on a commencé à faire de la musique, je me rendais compte l'impact que ça avait sur les gens. Je me rendais compte la position que ça nous donnait. Je me rendais compte du pouvoir que ça nous donnait et donc de la responsabilité que ça nous donnait. Et je m'en suis rendu compte tout de suite. En tout cas, ce qui concerne le hip-hop, ce qui concerne le rap, j'ai compris que c'était la pour le coup la musique de la révolution de maintenant, véritablement.
Et quand vous avez découvert le slam, c'était quand? Et ça a provoqué quoi chez vous?
Ben, ce qu'on appelle communément le slam, pour moi, c'était du rap, en fait. C'était une autre forme, une autre manière. Il y avait pendant longtemps une émission qui venait de, c'est Russell Simmons qui avait fait Russell Simmons de Def Jam. Il avait une émission qui s'appelait le Def Comedy Club. Et dans le Def Comedy Club, il y avait des gens, des rappeurs qui venaient, mais qui venaient slammer leurs textes. Pas les rapper, mais les slammer. Donc, une déclamation poétique. Et pour moi, c'était lié, c'est là que j'ai un peu découvert. Et puis bon, évidemment, il y a le slam de Saul Williams et tout ça à l'époque. Mais pour moi, et c'était toujours là. Gilles Scott-Heron, enfin, il y a eu toujours quelque chose de... Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est... J'ai ma passion pour la philosophie, pour la littérature, etc. À un moment, je voulais faire un album qui reflète ça. Et j'avais le sentiment que prendre la diction du slam, de la déclamation, on va dire, ça allait être quelque chose qui allait, comment dire, refléter plus facilement cette idée de mettre en lumière la philosophie, cette idée de mettre en lumière la littérature, les romans, enfin, la littérature, en tout cas, voilà, ce... Et c'est en ce sens-là que c'est comme ça que j'ai utilisé ce qu'on appelle le slam. Mais je me suis jamais vraiment considéré comme slameur. Pour moi, c'est si vous regardez un peu l'évolution du rap et des rappeurs dans le flow. Au départ, on a quelque chose de très maniéré. Donc on a Grandmaster Flash, enfin tous ces gens-là. Et plus on approche, plus on avance. Quand on arrive après, je sais pas, dans les années 90-2000, etc., avec des figures comme Jay-Z, etc., plus on se rapproche du parler. Et aujourd'hui, quand on écoute quelqu'un comme Kendrick Lamar, c'est un peu tout ça. C'est à la fois rapper, slammer, chanter, déclamer, crier, enfin tout ça. Et c'est la liberté, en tout cas.
Alors, je reviens, je l'évoquais à Gérard Jouannet, parce que c'est en regardant, j'ai lu un documentaire à la télé, qui parlait de la vie de Juliette Gréco, que vous voyez, Gérard Jouannet qui parle de la façon dont il travaille avec Jacques Brel. Et Jacques Brel, bon, c'est évidemment pour vous une grande référence. Et comment vous allez toquer à la porte? Comment vous avez fait pour le rencontrer?
Ouais, ça a été... En fait, quand je faisais justement... J'étais en train de terminer mon deuxième album, solo, donc. Un soir, j'étais chez moi. C'est une histoire que je raconte assez souvent. J'arrivais pas à dormir et puis je zappais. Et puis je tombe sur un concert de Juliette. Donc Juliette et Gérard et tout. Et après le concert, Gérard Jouannet, il parle de sa manière, comment il travaille avec Brel, il parle de Gréco, enfin il parle de tout ça. Et je me mets à rêver, je me dis, oh, ça serait fabuleux de travailler avec eux et tout. Et le lendemain, il y avait une réunion à la maison de disques et il y avait... une amie qui était là, qui travaillait à la maison du, je lui dis, ah, tu sais, j'ai vu un truc et tout, Juliette Gréco, Gérard Jouannet, c'était fabuleux et tout. Et elle me dit, ben, tu sais, moi, dans une autre vie, j'étais ingénieur du son. Et j'ai enregistré le dernier album de Juliette. Si tu veux, je fais le lien. J'ai dit, ah, mais ça serait fabuleux et tout. Et donc, elle fait le lien, elle leur fait écouter, mon travail, etc. Et même une semaine après, elle m'appelle et elle me dit, ben, ils sont d'accord pour te rencontrer. Donc, à l'époque, ils habitaient dans l'Oise, à Verderonne, précisément. Donc, j'y vais. Je frappe à la porte. Juliette Gréco m'ouvre la porte et on s'est plus quitté pendant 15 ans. Mmh. Juliette et Gérard Jouannet. C'était fabuleux. La première fois que je travaille avec Gérard, ce jour même où je vais chez eux, la première fois, je suis comme ça et tout. Lui, il était un peu ours et tout. Donc, je sais pas. Et il est comme ça et je lui demande, est-ce que vous pouvez me jouer quelque chose? Puisqu'on était dans son antre avec son piano, il joue. Et je dis, ah, ça, vous pouvez me le jouer en boucle? Et il se met à jouer en boucle et tout ça. Et je me dis, vous avez une feuille, un stylo? Et j'ai écrit un texte comme ça. Moi, c'était ma manière d'écrire. J'ai toujours écrit comme ça. Et lui, il me regarde, il me fait, vous savez, à l'époque, on se voyait, il me dit, vous savez, la dernière fois que j'ai travaillé comme ça, c'est avec Jacques. Moi, je me dis, waouh, je dis vite qu'on passe à autre chose, il va se rendre compte que je suis pas Jacques Brel. Et c'était fabuleux. Mmh. Non, vraiment fabuleux. C'était quelqu'un d'un talent. Et puis, non, c'était vraiment mes amis. Gérard et Juliette, je les considère comme mes parrains et marraines du métier. C'était des gens formidables, vraiment.
Alors, pour un hommage, à nouveau, on va écouter un extrait de votre album, Le Jeune Homme à l'épée. Alors, c'est pas seulement un album, on va en reparler, mais il est sorti en 2019. Et il y a ce morceau avec Gérard Jouannet, Strasbourg. On l'écoute.
Strasbourg. Autour de la place Kléber tournoyaient les autobus blancs et rouges, où ne faisaient qu'un Alsacien d'adoption et Alsacien de souche. Derrière la place Gutenberg, le magasin Old River laissait les petits voleurs à la tire rêveurs. Et place de la cathédrale, les cœurs orientés vers le paradise, tous les lycéens techniques et toutes les lycéennes techniciennes, fervents adeptes de l'école buissonnière, avaient la jeunesse vieille à cause de la vie en cité HLM. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareil. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire t'es belle, Strasbourg. Autour de la gare, c'est la guerre où erre à gare et en guenille les amis d'autrefois, ceux du temps où on avait tous vraiment la foi. Bien sûr, pas celle imbécile qui assassine rue des Orfèvres et laisse courir l'idée qu'on ne serait pas tous des frères. Mais sur le chemin de la grande rue, les cœurs se mettent à nu, ceux qui vendent et ceux qui se vendent, tout en demandant à la vie de les attendre. Mais bien que nous n'acceptions pas les conseils, nous avions la jeunesse vieille à cause de la vie en cité HLM. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous qu'on était pareil. Mais qu'on vienne des quartiers périphériques ou du centre-ville, on savait tous dire je t'aime, Strasbourg. Chauffe, Gérard. Chauffe maintenant. Thank you.
C'est Gérard Jeunet, ce qu'on entendait jouer dans ce morceau Strasbourg, extrait de l'album Le Jeune Noir à l'épée. On va y revenir, mais pour rester sur la dimension musicale à l'instar d'Almanix, ce qui est frappant dans votre discographie, dont on attend la suite, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que musicalement, chaque album semble chercher à créer des passerelles qui sont à chaque fois différentes, rap et électro pour Scarification, rock, rumba congolaise, hip-hop pour Château Rouge, rap, slam, jazz pour Gibraltar. Les textes, évidemment, sont importants, mais la recherche musicale, c'est aussi important.
Ouais, complètement. Je fais partie de ces artistes qui pensent que le fond, c'est la forme, et la forme, c'est le fond. Et oui, ça va ensemble, parce que il y a une rencontre avec des musiciens, il y a une rencontre avec des artistes, il y a des esthétiques différentes qui se... Et c'est fabuleux, et c'est comme ça qu'on crée, à mon avis, on crée du beau, du neuf. Mmh. Et véritablement, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est le faire ensemble. Comment ensemble, on vient chacun de nos mondes, de nos univers, de nos disciplines, et qu'on crée du commun. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on fait société, en vérité.
Alors, si, j'y reviens tout de suite, s'il n'y a pas de nouvel album studio, vraiment au sens strict, depuis Scarification, sorti en 2015, c'est que... C'est un manque de temps ou c'est un manque de passerelle à trouver? C'est un manque quoi, de nécessité?
J'ai jamais eu de plan ou de stratégie en musique. C'est vraiment basé sur des rencontres, des événements. Il se passe quelque chose et on crée. Et précisément en musique, c'est très et voilà. Donc c'est juste que il n'y a pas eu de rencontres stimulantes au point d'en faire un album. Mmh. Faire d'autres choses,
oui,
mais,
oui.
Mais au point d'en faire de la musique, non, mais ça va venir. Il faut il faut rester dans un rythme qui soit naturel.
Mais le format album, vous n'avez rien contre?
Ah non, j'ai rien contre.
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Non.
Parce que je reviens au morceau qu'on a écouté à l'instant, qui a un hymne à Strasbourg, un hymne à l'amour, mais un disque qui est rattaché à un projet bien plus vaste. Et il faut dire que depuis 2005, Abdelmanik, vous publiez aussi régulièrement des livres, des essais comme ou des récits comme Kala bénisse la France, jusqu'au dernier en date Juliette. Le premier cité, ça sera un film que vous avez réalisé, qui est sorti en 2014. Mais il y a plusieurs autres livres très engagés. Il y a eu La guerre des banlieues n'aura pas lieu, Le dernier français, L'islam au secours de la République, Place de la République, plus récemment encore Réconciliation. Et puis donc aussi ce Jeune Noir à l'épée, livre, CD, spectacle. Ça, c'était à l'invitation du musée d'Orsay. C'était aussi inspiré par une peinture de Pierre Puvis de Chavannes. L'écriture de texte qui ne sera pas chanté ou slamé ou rappé, elle correspond à quel besoin ou quelle nécessité pour vous?
C'est si sur le reste on est sur on est quelque part sur l'émotion, sur quelque chose qui soit, et il y a aussi cette idée de s'arrêter et de poser les choses, j'ai presque envie de dire intellectuellement. Pour moi, c'est toujours ce double mouvement, c'est-à-dire essayer d'avoir une forme de retenue émotionnelle, néanmoins, de pas. Et ce qui permet cette retenue émotionnelle, c'est le fait de pouvoir créer, faire de la musique, etc., et pas être dans l'excès par rapport aux choses qui se passent, mais les vivre de l'intérieur et pouvoir produire quelque chose avec les autres. Et puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de la tenue intellectuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'arrête et on analyse. Dans quelle situation on est, comment on peut faire pour essayer, en tout cas, à son humble niveau, de faire bouger les choses, ou en tout cas, de faire bouger positivement les choses, j'entends. Et voilà. Et donc, ça se base sur ça. C'est-à-dire, à un moment, je pense que on doit être capable de s'arrêter, réfléchir, et peut-être être force de proposition, quelque part. Et il y a de ça dans mon rapport à une certaine forme d'écriture. Et puis, il y a aussi, je suis un raconteur d'histoire. Donc, forcément, il y a quelque chose de la noblesse de l'écriture, enfin d'un travail livresque, j'ai envie de dire, de quelque chose qui est lié au livre qu'on ouvre et de l'histoire qu'on raconte, et voilà. Alors, voilà,
sur les textes qui sont plus comme des essais, c'est vrai que ça permet à la pensée de se déployer, d'être pas manichéenne, bien au contraire. Ce qui est très différent de l'écriture, évidemment, d'une chanson qui va appuyer sur un point. Une chanson, on tape sur un même clou pour que l'idée rentre. Il y a cela.
Ouais, il y a ça. Et c'est en ce sens-là où, comme je vous ai dit, je programme pas, je n'anticipe pas. C'est-à-dire que il y a des situations qui font que telle situation va faire que je vais considérer que c'est plus opportun pour qu'on comprenne, ou en tout cas on rentre dans mon imaginaire d'une certaine manière, ou que je le fasse en musique. Et des fois, je me dis, en fait, non, il faut un scénario, il faut raconter une histoire qui va être pour le cinéma. Ou je me dis, ah non, en fait, là, il y a quelque chose qui est plus littéraire. Donc, et là, il y a quelque chose qui est plus... Voilà, en fait, c'est selon la situation. C'est la situation qui va déterminer la création.
Alors, si on prend un projet en cours, je disais, il y a 10 ans maintenant qu'est sorti votre film « Cala bénisse la France », vous venez de terminer le tournage d'un nouveau film qui revient sur un épisode que je ne connaissais pas, en 1817, quand un esclave d'une trentaine d'années a décidé de poursuivre son maître en justice. Alors, c'est une affaire, je me suis documenté depuis. Ouais. Cet homme qui s'appelait Furcy, une procédure judiciaire qui dure 27 ans. Là, comment ça se passe? Vous découvrez vous-même cette histoire et vous dites, il faut que je la raconte, et quel est le bon moyen pour la raconter?
Ça s'est passé en plusieurs étapes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait être en 2010, j'étais à La Réunion, je faisais un concert, et il y a des jeunes qui sont venus me voir, ils ont apporté un livre, ils m'ont dit, voilà, ce serait bien, on veut monter une pièce de théâtre, etc. Donc moi, je prends le livre, je le lis. C'était le livre de Mohamed Aissaoui, que je salue, qui avait déjà eu le Renaudot à ce moment-là, donc l'affaire de l'esclave Furcy, je lis, mais je me dis, oh, je sais pas, parle de ça. Donc très poliment, je leur dis, non, c'est un peu compliqué pour moi, etc. Et puis le temps passe, il se passe... que je vais à Nantes lors des commémorations. Je suis avec Patrick Chamoiseau, on est parrain de l'événement. Je vais au musée là-bas qui est incroyable, au mémorial qui est incroyable également. J'écoute des historiens, des artistes, je me dis, ah, il y a quelque chose. Ensuite, il y a l'invitation au musée d'Orsay sur la figure noire de Géricault à Matisse. Ah, là, je me dis, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a Nat Parker, par rapport à son film, qui m'invite aussi pour que je fasse des voix sur l'histoire de l'esclave Nat Turner. Et je reçois un coup de fil d'un producteur, réalisateur et scénariste, s'appelle Étienne Comard, et qui me dit, voilà, je voudrais te voir, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse? Je viens le voir, et il me tend le livre de Mohamed Aissaoui, 10 ans après, quasiment, jour pour jour. Mais sauf que là, j'étais prêt. Je savais comment raconter, je savais ce que j'avais à dire sur... Et donc voilà, donc c'est en même temps ça, sur le fond. Et en même temps, il y a une dynamique sur la forme aussi, le fond aussi, mais la forme, c'est que juste avant, il y a mon épouse qui a écrit cette série qui s'appelle 9-3 bébé pour Bertolt Brecht, et qui me demande de réaliser ça. Donc, il y a quelque chose à raconter sur la culture dans les quartiers populaires, sur qu'est-ce qu'une jeune fille, ce rapport à l'art, etc. Donc, tout ça se mêle un peu. Je réalise cette série, qui d'ailleurs arrive, là, ça sort le 19 avril. Je réalise cette série, et tout de suite après, je continue, et je pars à La Réunion, Paris, La Réunion, et je termine le tournage de l'affaire de l'esclave Furcy. Tout ça va en même temps. Mais pourquoi je vous raconte les deux? C'est parce que, encore une fois, comme rien n'est programmé chez moi, il y a toujours une espèce de dynamique qui tout d'un coup devient logique, même dans le sens. L'idée, c'est pas parce que l'un parle du rapport de la culture et de l'art dans les quartiers populaires, la complexité, la difficulté, etc. Mais on a voulu parler de ça, mais encore une fois, sans être dans une démarche vengeresse ou quoi que ce soit, c'est juste de dire, voilà la situation, et que finalement, ces jeunes-là qui parlent de culture, etc., dans les quartiers populaires, sont une majorité, ce n'est pas une minorité. C'était important de le montrer. Ça, moi, c'est comme ça que j'ai vécu la cité, et mon épouse, qui est née à Saint-Denis, donc Wallen, et qui a grandi à Bobigny, c'est comme ça qu'elle a vécu la cité, c'est comme ça qu'on a voulu raconter. Pareil, lorsqu'on parle de l'esclavage, mon idée, c'est pas, encore une fois, c'est de dire, voilà, on a une histoire obscure qui il y a eu un moment complexe de l'histoire de France et de l'histoire de l'Europe, et il y a eu l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et en quoi ça nous parle aujourd'hui? Donc mon idée, c'est de faire un objet artistique qui puisse être un outil de réconciliation. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Donc, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'on regarde notre histoire dans les yeux, on regarde nos problématiques dans les yeux, mais pour en faire quelque chose qui va nous permettre de faire peuple, quelque chose qui va faire du lien et non point de la rupture. Voilà.
Et ça s'inscrit parfaitement aussi avec ce projet dont on va parler, ce sacre que vous allez créer à la Philharmonie Abdelmanik, Philharmonie de Paris, en cette fin de semaine. Avant cela, vous faire écouter quand même Jacques Brel, au micro de Jacques Chancel, c'est dans Radioscopie en 1973.
Parfois, on m'a demandé ce que c'était qu'un artiste, si vous voulez. Enfin, parce que c'est ça. L'art, je ne connais pas, je n'ai jamais pratiqué une discipline stricte. N'est-ce pas? La chanson, c'est une petite chose. Je crois aussi que le cinéma est une petite chose, d'ailleurs. Vous savez. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, Il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire ce quelque chose. Mais il y a... C'est tous des chanteurs, vous savez. Et tout chanteur correspond à quelque chose. Et je crois que tout film correspond à quelque chose. Et toutes les fleurs correspondent à quelque chose. Et tous les climats correspondent à quelque chose.
Et toutes les fleurs correspondent à quelque chose. C'est
encore,
magnifique.
Encore un sage, Abdelmalik.
Waouh, Jacques Brel. C'est pareil, voilà, c'est des espèces de... Enfin, c'est des figures, des référents absolus. Mmh. Des gens qui sont des frères, vraiment, que je vis comme des frères et voilà, que vous dire.
Mais j'avais envie de rattacher ces paroles de Jacques Brel avec des mots d'Édouard Glissant. En avril 2009, je recevais le romancier, poète et philosophe sur cette antenne. Écoutez ce court extrait.
La connaissance, et en particulier la connaissance poétique, qui est peut-être la seule fondamentale, n'est pas universelle. Elle est liée à des lieux. Il y a un lieu de connaissance et un autre lieu de connaissance et un troisième lieu de connaissance. Ce n'est pas à chaque fois la même chose. Et la relation entre ces lieux constitue la grandeur de la connaissance. Et non, ce n'est pas l'universalité de la connaissance qui en constitue la grandeur.
Agis dans le lieu, pense avec le monde, disait aussi Édouard Glissant. Il me semble, d'après ce que j'ai cru comprendre, sans évidemment l'avoir vu, que notre sacre, création collective, s'inscrit dans cette idée, Abdelmalik. Comment est né ce projet ?
En fait, c'était au sortir des Justes, la mise en scène que j'ai fait en 19. Je me suis rendu compte de... Parce qu'on a travaillé avec des jeunes à Aulnay-sous-Bois, avec des jeunes qui n'étaient pas nécessairement au fait du théâtre, qui n'étaient pas nécessairement au fait de tout ça, mais qui avaient envie, comme aurait dit Jacques Brel, qui avaient envie véritablement. Et je les ai mis en lien avec d'autres jeunes du même âge, mais qui eux étaient de Sciences Po, et qui n'étaient jamais venus dans les quartiers populaires, etc. Et en fait, il s'est passé quelque chose entre cette jeunesse-là, et j'ai trouvé ça fabuleux. Ils étaient force de proposition, ils amenaient quelque chose, ils avaient un rapport. Et je me suis dit que ça serait bien que dans différentes disciplines, on puisse rassembler des jeunes comme ça et puis prendre une espèce d'œuvre qui serait une œuvre majeure, connue et reconnue par tous, et qu'on essaye à l'intérieur de rentrer et d'amener cette force de la jeunesse. Et tout de suite, j'ai pensé au sacre. J'ai pensé au sacre à la fois pour Nijinsky, à la fois pour la musique de Stravinsky, en même temps pour le scandale et tout ça. Je me suis dit, ça pourrait être vraiment fabuleux. Je me suis dit, on pourrait essayer de créer une sorte de compagnie. On irait chercher différents jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et autour, on construirait autour d'eux quelque chose. Donc, j'en parle à Blanca. À Blancali, et elle, quand on lui parle de l'interdisciplinarité, ça lui dit qu'elle tout de suite, elle me dit « Ah, c'est super, on y va, Malik, et tout. » À la Philharmonie, on nous présente David Grimal, et David, on lui en parle, et tout de suite, on capte, quoi. Il y a quelque chose entre nous qui se passe naturellement comme ça, et on y est allé. Et l'idée, c'est ça, c'est on vient de disciplines différentes, faire rencontrer ces disciplines-là, les mettre en mouvement avec une jeunesse, avec ce dynamisme de la jeunesse, à la fois dans la forme, mais à la fois dans la singularité qu'a la jeunesse, ce qu'ils veulent apporter, etc. Et on a créé ça. Et mon idée, c'est ça, c'est comment on va faire du lien, comment on va parler d'aujourd'hui, comment cette idée d'interdisciplinarité, finalement, où c'est pas très couru, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais concrètement, dans ce qu'on produit, des productions artistiques, il n'y en a pas tant que ça, finalement, où il y a des gens qui viennent de disciplines différentes et qui créent ensemble, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, voilà, moi, ça a été, voilà, donc j'ai été tout de suite... Comment dire, j'ai été à la base de ce projet dans cette idée-là. Faire se rencontrer, dialoguer. Et à mon avis, je le disais déjà sur le travail des Justes, je me disais que si nous, on arrive ensemble, comme ça, à travailler, à faire ensemble, à créer quelque chose qui fasse sens, à quelque chose de puissant, quelque chose à la fois interdisciplinaire, mais aussi intergénérationnel ou transdisciplinaire ou transgénérationnel, si on peut le faire à l'échelle de l'art, des saltimbanques que nous sommes, eh ben on peut le faire à l'échelle de la société.
Oui, la somme des lieux fait la richesse, hein, disait Édouard Glissant dans ce court extrait qu'on a entendu. Alors, sur scène, vous me corrigez, hein, si les informations que j'ai sont fausses, il y a une troupe de danseuses, de danseurs, ils ont entre 18 et 25 ans, ils sont originaires de quartiers populaires ou de zones rurales.
Avec une parité parfaite.
Ben, j'espère bien.
Voilà, c'est important de le dire.
Ouais. Ouais. Les musiciennes et musiciens de l'ensemble Les Dissonances, donc dirigé par David Grimal, et puis enfin, vous serez évidemment bien sûr Abdelmalik sur le plateau pour donner à entendre des textes, on va y revenir, mais avec une musique créée par Bilal. Bilal, on en parlait, votre frère. Alors peut-être, et tout ça, mise en scène et chorégraphé par Blancali. Sur le travail de Bilal, comment est-ce qu'il a travaillé par rapport à l'œuvre de Stravinsky? Quels sont les échos entre sa partition et celle qu'on entend dans la deuxième partie, si j'ai bien compris, de Stravinsky?
Ouais, mais l'idée, c'était de dire, voilà... Stravinsky, en son temps, enfin, il s'est inspiré de différents éléments pour créer le sacre. Et on s'est dit, on a pensé ça à la fois avec Bilal et avec les gens de la Philharmonie, on s'est dit, et si on prenait les mêmes sources et que Bilal pouvait créer lui, en fait, les mêmes sources que Stravinsky, mais qu'est-ce que ça lui inspire lui avec ce qu'on appelle la musique d'aujourd'hui, une musique contemporaine, la musique urbaine, enfin tout ce qu'on veut, la musique électronique et tout ça, qu'est-ce que ça pourrait et donc il a eu ces mêmes sources là et il a créé. Et donc l'idée c'est de mettre à la fois en miroir, en écho, une musique d'aujourd'hui, une approche de la musique d'aujourd'hui à celle de Stravinsky, à celle de ça, et que ce soit en miroir, qu'ils dialoguent, qu'ils se regardent, qu'ils échangent, qu'ils dialoguent. Et il y a quelque chose, évidemment, on a vu, le sac, on l'a vu en musique, on l'a vu sur la danse, etc. Bon, on sait tous les grands artistes qui se sont emparés de ça et qui ont donné leur version, mais on n'avait jamais entendu de la poésie avec ça. On n'avait jamais entendu des textes. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était symboliquement ce que le sacre nous dit sur l'idée de printemps, de sacrifice, que quelque chose doit mourir pour que autre chose advienne. Il faut que les choses. Et là, je cite Visconti. Il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut que tout change d'une certaine manière. Et il y avait de ça. Donc l'idée, c'était aussi qu'est-ce qu'on pouvait dire avec des mots. Comment on pouvait faire ce lien avec la poésie et pour rentrer dans une interdisciplinarité pleine, c'est-à-dire les mots, la musique et le corps. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé ce spectacle, qu'on a appelé humblement notre sacre.
Oui, mais alors très concrètement pour vous, Abdelmalik, l'écriture de ces textes-là, elle s'est passée comment ?
Elle s'est passée. C'est intéressant parce que j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé, parce que à la Philharmonie, il y a une acoustique particulière. Et l'idée, c'était que ma voix puisse être entendue et de la bonne manière.
Comprise.
Articulée de la bonne manière. Donc, j'ai écrit des textes inspirés de la musique à la fois de Stravinsky et la musique de Bilal.
En les écoutant,
j'écris. C'est comme ça, comme je travaille toujours, travaille avec... En fait, les mots viennent de la musique. Je prémédite pas, je viens pas avec des textes que je plaque. C'est la musique qui fait sortir les mots en moi. Et donc, je fais ça. Et puis, on commence à répéter à la Philharmonie et je vois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au niveau sonore, c'est un son particulier, etc. Donc, j'ai écrit en tenant compte de l'acoustique du lieu, en me disant, OK, je vais tout reprendre. Et je vais tout reprendre en me basant sur... Donc, j'écris, je viens les dire sur le plateau, je vois où ça marche, etc. Et j'ai travaillé... C'est la première fois que j'ai travaillé comme ça et du coup, ça confirme mon adage que j'ai depuis tant d'années en disant que je suis un artiste, je fais partie de ces artistes qui pensent que le fond, c'est la forme, et la forme, c'est le fond. Mais là, pour le coup, l'acoustique.
Là, c'est la création aussi. In situ.
In vraiment. Situ, quoi, avec le son, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé, ça a donné, et c'est fabuleux. C'est fabuleux c'est à ce que vous pourrez assister au résultat, ce que ça donne.
Vendredi et samedi.
Enfin, oui.
Oui.
Parce que ça, je dis oui, enfin, parce que comme ça.
C'est bien complet déjà. Bon, mais c'est toujours qu'il y a des places.
Ouais, non, il y a toujours des places.
Mais parce que justement, je me demandais où est-ce qu'on allait pouvoir voir ce spectacle après? Alors, s'il est créé vraiment pour le lieu, enfin, ça dit, si ça marche à la Philharmonie, ça devrait pouvoir marcher ailleurs.
Ouais, mais on est en train de réfléchir pour l'amener ailleurs, etc. Mais, et on n'est pas contre, adapter cette même logique de travail dans les autres lieux. Parce qu'en fait, on respire pas pareil dans une salle que dans une autre, dans une ville que dans une autre. Et je trouve que, en fait, ce que ça m'a appris comme expérience, c'est que, moi qui aime bien écrire, j'entends la musique et j'écris, mais il y a aussi où j'écris, dans quel lieu ça va être interprété, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant que de pouvoir faire quelque chose qui bougerait, qui se transformerait selon l'endroit où on se trouve. Et on est en train de réfléchir pour pouvoir l'amener, l'amener en tournée et de cette manière-là.
Et pour Bilal, au niveau sonore, ça donnait quoi pour lui, la Philharmonie? Ça donne quoi? Vous êtes en répétition, là, alors?
Ouais, non, mais c'est
qu'est-ce que vous entendez de son travail? C'est quelque chose de nouveau?
C'est complètement nouveau. Parce que ce qui est électrifié, parce qu'encore une fois, il y a ce mariage entre ce qui est amplifié et la musique des dissonances de et de David Grimal, de l'orchestre, qui, eux, c'est en phase avec véritablement. Donc, il y a toute cette équipe. Mais c'est fabuleux, c'est passionnant, en fait. Ce qui se passe est vraiment passionnant. Et puis, c'est beau. Encore une fois, on vient de milieux qui sont totalement différents les uns les autres. Et cette rencontre-là, elle est fabuleuse et tellement enrichissante. Et je pense que c'est exemplaire à l'époque, l'époque où nous vivons.
Bien d'accord avec vous. Alors, il me reste à rappeler que vous allez donc présenter notre sac. Notre sacre, Bianca Lally, David Grimal, Bilal. On n'a pas parlé des créations visuelles.
Ah oui, et puis il y a les créations visuelles. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée de comment on tout ce que je vous ai dit là, comment ça se manifeste en termes d'image. Et ça a été fait, et c'est fabuleux.
Ça, c'est Carco.
Ouais, c'est Carco.
Cette dimension-là. Et puis donc, à venir très vite sur France TV, 9-3 Bébé, écrite par Wallen, que vous avez réalisée. Série qui sera en ligne en intégralité et gratuitement, c'est important de le dire, pour les plateformes aujourd'hui, le 19 avril prochain. Merci beaucoup, Abdel Malik, d'avoir été notre
invité. Merci à vous, Arnaud. Merci de m'avoir reçu.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Depuis son premier album Tragedy, inspiré par la pièce Hippolytus d'Euripide, Julia Holter dessine d'improbables sentiers entre musique savante et musique pop. Art pop, diront certains, avant-garde, diront d'autres. Il semble toutefois que le concept échappe à la vérité du corps, qui est le véritable moteur de l'autrice, compositrice et interprète américaine. Son nouvel album, Something in the Room She Moves, est le fruit d'un écho sensible entre son expérience de la grossesse et celle de la pandémie. La naissance et la mort, deux points entre lesquels s'enchevêtre une somme de bouleversements intimes, à laquelle Julia Holter répond par un ensemble de 10 titres, gracieux, envoûtants et baroques. Plus jazz que jamais, ce nouvel album est un tel sommet d'arrangement que l'on rêverait de suivre son enseignement du songwriting à l'Occidental College de Los Angeles. Pour l'heure, contentons-nous d'écouter This Morning, notre son du jour.
This morning at sunrise, tall fjords sometime lost, brush aside any words sinking to the abyss I go. Seizing me this morning. Thank you.
C'était This Morning de Julia Alter, extrait de son nouvel album Something in the Room She Moves.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Roubaix en face de la piscine. Ce musée installé justement dans une ancienne piscine, hein, l'extérieur est tout en briques rouges qui rappelle bien sûr cette architecture du Nord. Et puis à l'intérieur, nous allons découvrir un tout autre style puisque c'est une piscine art déco. Alors piscine qui est devenue depuis plus de 20 ans un musée et c'est les nouvelles expositions de ce printemps 2024 qui nous accueillent aujourd'hui.
Je suis Bruno Godichon et je suis le conservateur de la piscine à Roubaix.
Merci de nous accueillir, on vient juste d'arriver dans ce très beau bâtiment ici à Roubaix. Avant de rentrer dans les expositions qui viennent d'ouvrir leurs portes, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire justement de cette piscine ?
Alors donc effectivement le musée est installé notamment sur le site de l'ancienne piscine municipale qu'on appelait à Roubaix la piscine de la rue des Champs puisqu'elle ouvrait rue des Champs. Qui est un bâtiment qui a été construit entre 1927 et 1932 à la demande de Jean Lebas, le maire de Roubaix de l'époque, qui est une sorte d'avant-goût des grandes idées du Front populaire, c'est-à-dire un lieu de loisirs pour les ouvriers et le meilleur pour tous. Donc il y a cette dimension sociale et politique même très forte dans le lieu d'origine qui continue un peu de guider les pas du musée qui est très attaché à son territoire et à la spécificité de ce territoire, notamment autour de la mémoire du textile et donc plus largement de la question des arts appliqués. L'exposition Les enfants de la piscine saisit en fait l'opportunité de la présentation des chefs-d'œuvre prêtés par le musée d'Orsay pour faire dialoguer différemment les œuvres avec des sujets ou des connotations liées à l'enfance dans la collection. Toutes les cabines du premier étage du bassin, il faut imaginer donc ce musée étant installé dans une piscine des années 30, le cœur de l'équipement. C'était ce grand bassin de 50 mètres.
On entend l'eau derrière nous.
On entend l'eau qui coule derrière nous. Ce bassin est entouré sur deux niveaux par des cabines qui étaient des cabines de douche et des habillages et qui sont devenues soit des vitrines, soit des cabinets de consultation. Et donc, c'est deux longueurs de la piscine, une au rez-de-chaussée et une au premier étage qui sont consacrées à cette présentation des enfants de la piscine.
Entre dans l'exposition.
La séquence qui est consacrée donc à ces regards échangés entre 10 œuvres des collections permanentes de la piscine et 5 prêts exceptionnels du musée d'Orsay dans le cadre de l'opération qu'Orsay a organisée autour du 150e anniversaire de l'impressionnisme. Avec surtout l'idée de proposer un vis-à-vis entre le chef-d'œuvre de la collection du musée de Roubaix, qui est la seconde version en marbre du buste de la petite châtelaine de Camille Claudel et la seule sculpture que Degas ait présentée dans une exposition impressionniste qui est la petite danseuse de 14 ans qu'il a exposée en 1881. En même temps, elle est évidemment à l'époque un changement total dans les règles de la sculpture avec pour une des toutes premières fois, c'est une sculpture d'assemblage qui associait des parties modelées en cire, donc bien dans la tradition de la sculpture créée, mais aussi des éléments, les cheveux, le vêtement, le foulard dans les cheveux, qui étaient des éléments réels et apportés sur la sculpture. Donc on imagine bien ce que cette technique de l'assemblage a eu comme succès tout au long du XXe siècle, et notamment dans les sculptures de Picasso, qui a beaucoup regardé les sculptures de Degas. Alors, la petite châtelaine de Camille Claudel qui est
qui
en
fait face.
Qui voilà. fait face, voilà. Et donc, au début des années 1890, Claudel et Rodin vont faire plusieurs séjours au château de Lillette, à côté d'Azel-Rideau, en Touraine. Rodin, il cherche le modèle pour son Balzac. Et Claudel, sans doute, vient s'y reposer après un avortement. Et elle tombe en admiration, en amour, en affection devant la petite fille de la propriétaire du château, la petite Marguerite Boyer, dont elle va faire un premier portrait. C'est une œuvre qui devient, de fait, un exemple, une sorte de prototype de la taille directe qui va devenir un des grands éléments de la sculpture moderne et contemporaine. Et puis, dans un lien avec l'impressionnisme, il ne faut pas oublier la relation forte entre Rodin et Monet, elle va se passionner sur la question du rapport de la lumière à l'œuvre. Et donc, elle est à ce moment-là persuadée d'avoir retrouvé la technique du polissage du marbre du Bernin, qui donne à ce marbre un aspect assez épais, qui fait presque plus penser à de l'albâtre qu'à du marbre, qui lui donne une dimension très lumineuse. Et puis, surtout, elle creuse complètement le buste à l'intérieur pour en faire non pas un réflecteur de lumière, mais une sorte de diffuseur de lumière qui, évidemment, la rattache complètement aux préoccupations de l'impressionnisme. Donc c'est vraiment le dialogue central de cette salle. Mais de la même façon, on peut voir un dialogue entre ce très très célèbre tableau de Pissarro, La bergère à la baguette, et une version évidemment plus édulcorée, plus tardive, par André Brouillet à la fin des années 1890. Mais le sujet reste le même, sauf qu'il y a chez Pissarro une sorte d'osmose entre le traitement du personnage et du fond. Voilà, c'est vraiment un travail de peinture. Alors que chez Brouillet, on sent l'anecdote, notamment avec la présence des moutons à l'arrière, beaucoup plus forte. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que ce tableau avait été acheté par un industriel de Roubaix, parce que ces sujets avec des moutons, des bergeries, étaient quasiment indispensables dans les maisons de ces industriels qui travaillaient sur la laine. Et puis, une autre correspondance entre deux œuvres très étranges dans les collections de la piscine, ce tableau de Jules-Bastien Lepage, qui était une figure très regardée par les impressionnistes, une grande figure du naturalisme, qui est mort très très jeune, une carrière très brève. Mais là, on est sur un des sujets presque des poncifs de l'impressionnisme, c'est-à-dire la représentation de la mer et des bains de mer qui commencent à naître à cette époque-là. Donc là, c'est un jeune gamin qui est juste avec un maillot, avec
de profil.
Un profil perdu comme un profil de médaille devant ce paysage de plage avec les cabines de bain et les baigneurs.
Et donc là, il est mis en regard avec
un tableau de Renoir qui s'appelle Le jeune garçon au chat, avec cette espèce de connivence très étrange entre le regard du chat et le regard du petit garçon, et ce petit garçon qui, lui, n'est pas un peu comme d'ailleurs dans le tableau de Bastien Lepage, n'est pas un personnage, il ne raconte pas réellement une histoire, c'est visiblement comme un moment dans l'atelier avec un modèle professionnel. Il y avait au 19e siècle des modèles professionnels enfants, notamment dans des familles italiennes qui se louaient à l'heure. Mais bien évidemment, aujourd'hui, tout le regard qu'on a sur la question de la protection de l'enfance fait de ce tableau...
Puisque là, l'enfant est nu dans le Renoir.
Complètement nu, voilà. Qui fait de ce tableau une sorte d'étrangeté. Et c'est vraiment un achat courageux et important qu'avait fait le musée d'Orsay en 1992. C'est aussi un tableau dans lequel on retrouve cette touche très nacrée des débuts de Renoir, qui rappelle que l'artiste a été formé à la peinture sur porcelaine dans sa ville natale de Limoges.
Oui, on le retrouve notamment sur le drap, le tissu, voilà, sur la table.
Avec en plus ces motifs de fleurs
bleues qui rappellent pour le coup vraiment la porcelaine.
La porcelaine, voilà.
L'exposition se visite jusqu'au 26 mai.
Jusqu'au 26 mai, voilà. Une exposition de 3 mois avec l'ensemble donc des 7 expositions
cette saison,
voilà, qui est le printemps des collections, puisqu'encore une fois, ce qui réunit tout cet ensemble, c'est le lien avec les collections du musée, jusqu'à un accrochage de jeunes artistes, jeunes et moins jeunes, mais en tout cas d'artistes vivants, liés à Roubaix, qui témoigne aussi d'une vraie vitalité de la scène artistique à Roubaix, notamment depuis une vingtaine, trentaine d'années, quand des grands locaux industriels se sont trouvés vacants et sont devenus des opportunités pour les artistes. Voilà.
Merci beaucoup pour cette visite. Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Arnaud, le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes en fin de semaine avec comme invité d'honneur le Québec. Alors demain, comme un avant-goût de cette littérature, nous irons découvrir le Montréal de l'auteur et dramaturge Michel Tremblay.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche, Emma Ruberti et Jeanne Agrapard.